Alain Bougrain-Dubourg prit l'habitude de paraître dans les médias en compagnie de ce jeune homme dont le physique frappait et dont l'éloquence marquait les esprits. En peu de temps, Déodat acquit une célébrité non négligeable. Il séduisait tout le monde, à l'exception de Sakinée. Il s'en voulait de ses raisonnements. Elle ne lui devait rien. Et d'ailleurs, elle se conduisait loyalement envers lui. Elle ne lui avait jamais rien promis. Honnête, elle l'accueillait en souriant et souriait en lui disant au revoir. « J'ai vu le portrait de Saskia Rembrandt. Elle n'a pas votre grâce, lui dit-il un soir. Les goûts ont changé. Je suis brune, grande et mince. À l'époque, on m'aurait trouvé laide. On n'est pas sûr que Rembrandt aimait sa femme. Comment peut-on affirmer que quelqu'un aime sa femme ou le contraire ?» Déodat aurait pu approfondir le sujet. Il décida de rester sur ce propos énigmatique. Il pouvait l'interpréter en un sens qui lui convenait. « Pourquoi ne m'a-t-on pas opéré? Il paraît que l'on opère les enfants bossus aujourd'hui. » »« Vous aviez 15 ans quand vous avez été diagnostiqué. Il était trop tard pour vous opérer. Et puis, votre syphose était légère. Un traitement léger a suffi. 8 ans de corset, et puis vous? Je n'appelle pas ça un traitement léger. » Elle rit. « Qu'est-ce qui est pire, le corset ou moi ?»« Vous. Le corset, je pouvais l'enlever la nuit. Vous ? C'est la nuit que je vous sens le plus. Si vous me sentez, ce n'est pas si mal. Je vous sens. Cela signifie que je sens le manque de vous. C'est bon le manque, quand on sait qu'il sera comblé. Il ne l'est jamais. Ne vous plaignez pas trop. Vous n'êtes pas si malheureux. » Il saisit qu'il ne fallait pas insister. Elle pouvait très bien cesser de lui accorder ses faveurs. Coucher avec elle, cela ne lui suffisait pas. Mais ne plus coucher avec elle eût été 1000 fois pire. Il n'osait même pas lui poser la question terrible qui le hantait. Que se passerait-il quand le traitement s'achèverait? Il avait trop peur de la réponse parce qu'il la devinait. Entre-temps, il savourait ce qu'elle lui donnait, avec l'angoisse ardente de la précarité amoureuse. Étrangement, ce qu'il préférait n'était pas les moments où il faisait l'amour, mais les instants où, lors d'un exercice, elle lui touchait le dos pour immobiliser, indiquer ou vérifier. Un jour, pour encourager son patient épuisé, elle lui saisit la main. Il fut traversé d'une onde de plaisir si violent qu'il le cacha, faute de lui trouver une expression adéquate. Quand Saskia approuvait un mouvement accompli comme il le fallait, elle disait de sa voix douce « Bien, très bien ». Déodat éprouvait alors une joie qui lui était inconnue, une joie d'enfant, la joie d'un enfant qu'une fée observe sans dégoût, d'un regard vrai, indifférent à sa laideur et à sa réputation. Et il avait conscience de la justice que cette femme lui rendait, et son cœur débordait de gratitude envers elle. Dans le vain espoir qu'elle lui raconte ses week-ends, il lui parlait des siens. « Je ne participe plus jamais à ces expéditions de birdwatching de la LPO. Ce que j'aime dans l'observation des oiseaux, c'est être seule. Me retrouver claquemurée sous la tente avec d'autres êtres humains, subir leurs commentaires sur la mésange remise, très peu pour moi. Vous quittez rarement Paris. Les oiseaux de Paris me ravissent, peu m'importe qu'ils soient peu variés. Quand on aime vraiment les moineaux, on reconnaît les individus. Ce n'est plus le piaf, c'est Charles, c'est Maxime, c'est Joséphine que j'observe. Leur dédain industrieux de notre espèce me fascine. Ils ignorent nos mœurs, mais ils exploitent nos miettes et nos fibres. L'authentique parisien, c'est le moineau et non le râleur du trottoir. Voulez-vous aimer Paris? Oubliez l'homme, ne regardez que ce qui volette et sautille. Parfois, je passe le week-end à poursuivre des yeux une moinette unique qui habite le jardin du presbytère de Notre-Dame. Elle a dû vous repérer, même pas. Il peut arriver que ce soit une grâce d'être si peu remarqué par qui vous observe. Le « il peut arriver » cachait un monde sous-entendu qui ne furent pas relevés. Un soir, comme il se rhabillait, Saskia le regarda longuement. Au moment de partir, elle dit que c'était la dernière séance. « Il faudra continuer de faire vos 20 minutes d'exercice par jour. » Dévasté, Déodat eut un mal fou à retrouver la voix. « Je ne vous verrai plus. La rééducation est terminée. Mais je ne suis pas guérie. Je ne peux pas vivre sans vous. » Elle soupira, lui prit gentiment la main et dit « Si vous deviez négliger vos exercices, retenez-en un seul, le plus simple. Celui où les paumes à plat sur un mur en face de vous, vous vous penchez de manière à avoir le dos droit. Ce mouvement tout bête peut vous sauver. Dans la rue, elle lui caressa la joue, se retourna et s'en alla. Cloué au sol, Déodat resta immobile une éternité. Quand il parvint enfin à rentrer chez lui, il s'effondra. 8 années de corset, 2 années de kinésithérapie intensive, tout ça pour me tenir droit, et au final, je ne tiens même pas debout. Il attrapa le grand livre sur Rembrandt qu'il gardait à son chevet et le feuilleta à la recherche d'un secret qui aurait pu le sauver. Hélas, page après page, la beauté se taisait inexorablement. Soudain, il se posa la question qui aurait dû surgir 2 années plus tôt dans son cerveau. Ce damné Hollandais a-t-il peint des oiseaux ? Il ne savait pas si son livre était exhaustif, mais il ne trouva qu'un seul représentant de la gente aviaire. C'était une étude de personnage, pour un tableau qui s'appelait « Tête d'oriental avec oiseau de paradis ». Et l'oiseau, devant l'oriental indifférent, était mort. « Voici qui aurait pu m'ouvrir les yeux plus tôt », se dit-il en pleurant. Si le titre de l'œuvre ne l'avait pas indiqué, il n'aurait pas identifié le petit cadavre comme celui d'un oiseau de paradis. Une pie grièche, peut-être, ou davantage un oiseau de l'enfer. Au moins Rembrandt avait-il songé à dessiner un oiseau. Déodat était toujours sidéré par le nombre d'artistes qui n'avaient jamais représenté d'oiseaux. Qu'on ne partage pas son obsession, il pouvait le comprendre. Cependant, l'oiseau était le seul animal qu'on ne pouvait éviter de croiser au quotidien. Il suffisait de lever les yeux au ciel pour en apercevoir un. Ne pas représenter d'oiseau était une forme de déni aussi absurde que ne jamais peindre le ciel. Il appelait ce phénomène l'ingratitude de Lascaux. Les chefs-d'œuvre de la célèbre grotte montrent des bêtes remarquables, aurochs, bisons, chevaux. On y chercherait en vain les rennes ou les oiseaux appartenant au quotidien. Et quand on les repère enfin, ils y sont dessinés aussi schématiquement que la moins intéressante des créatures, l'homme. L'art a une tendance naturelle à privilégier l'extraordinaire. Il va falloir apprendre à vivre sans la pinsonne, osa-t-il se formuler. Il pleura à nouveau. Sans jamais lui parler d'amour, Saskia lui avait infiniment plus apporté que toutes les femmes qu'il avait connues auparavant. Quand un humain vient de souffrir d'un grave chagrin d'amour, soit il demeure célibataire très longtemps, soit il se marie aussitôt. Déodat commit la sottise précitée. Il avait toujours plu aux femmes, et sa notoriété n'avait fait qu'aggraver la chose. La première qui lui dit qu'elle l'aimait fut la bonne. Il avait tellement espéré ses paroles dans la bouche de Saskia que la nouvelle venue bénéficia du prestige de ses mots. Le lendemain des noces, Serena changea de langage. Déodat aurait dû s'en amuser si cela n'avait entraîné une modification radicale de sa voix. Lorsqu'elle s'exclamait, « Putain de merde, où sont mes pompes ?» Il ne reconnaissait absolument pas l'appareil phonatoire de celle qui lui avait dit « Je remets ma vie entre tes mains, mon chéri. » Si cela n'avait été qu'épisodique, cela ne l'eût pas dérangé. Or, en présence de son mari, Serena ne parlait plus autrement. Mais ce qui perturba le plus l'époux, c'est que l'irruption du moindre tiers suffisait à rendre à l'épouse la voix exquise et distinguée qui l'avait charmée. Il osa aborder le sujet. « Quoi ? On est mariés depuis 2 jours et tu es déjà chiant ? » s'écria-t-elle. Il n'avait rien contre une poseuse, mais déplorait la marchande de poissons. En équivalent langagier, cela correspondait au bigoudi des épouses d'autrefois. Une fois mariée, la femme n'hésitait plus à s'exhiber devant son mari, la tête couverte des petits rouleaux de plastique rose. Déodat appela ce phénomène le bigoudi verbal. L'effet de contraste entre la langue utilisée pour les autres et celle qui lui était réservée n'était pas seul en cause. Les bigoudis verbaux s'accompagnaient de tous les symptômes de la lassitude matrimoniale. Soupirs exaspérés, yeux au ciel, fatigue perpétuelle. Ce n'était pas drôle. Si tu es déjà comme ça après 3 jours de mariage, commenceras-tu dans 3 mois ?
Ça y est, c'est reparti.
Divorçons. Ce projet fut salué d'une bordée d'insultes qui persuadèrent le mari de tenir bon. L'avocat, qui reçut la demande de divorce, regarda la date du mariage et commenta. Record battu. Par bonheur, le jeune couple n'avait pas encore acheté d'appartement, ni d'ailleurs quoi que ce fût. Il n'y eut que d'étranges souvenirs à partager. Un beau matin, Déodat contracta d'épouvantables douleurs dorsales. Tandis qu'il souffrait seul devant sa tasse de café, il se rappela les dernières paroles de Saskia. Il se leva, bras à ongles droits, et pivota le bassin de manière à avoir le dos droit. Il répéta le mouvement un grand nombre de fois. Au bout de 5 minutes, son mal avait disparu. Il se rassit et termina sa tasse de café en proie à la satisfaction. Débarrassé de la poissonnière, il lui était désormais loisible de penser à celle qu'il aimait. S'il avait fallu ce mariage calamiteux pour ne plus éprouver d'amertume envers Saskia, il n'y avait rien à déplorer.